Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce débat pré-élection. Alors, faut-il rappeler les dates de ces élections municipales? Le premier tour, c'est dans presque une dizaine de jours, le dimanche 15 mars, et le second tour, s'il y a second tour, ce sera le 22 mars. Ce débat, donc, où nous avons voulu réunir les candidats de Laval, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté cette invitation conjointe de nos trois radios. Donc l'autre radio, Radio Associative de la Mayenne, avec Margot Doucet. Bonjour, bonjour. Margot. Et Tendance Ouest, une radio du groupe La Manche Libre, nouvelle venue sur la Mayenne, en DAB+, avec Simon Le Baron. Bonjour Simon.
Bonjour Isabelle.
Et je précise donc, Radio Fidélité Mayenne est dans l'affaire. Et nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir tous ici dans notre studio de la rue d'Avenières. Et ayant la particularité d'être une radio chrétienne, je dirais que nous donnons ici tous ensemble un bel exemple de laïcité respectueuse. Et je laisse maintenant la parole à Simon Le Baron pour une présentation des candidats à la mairie de Laval.
Ouais, merci Isabelle. Donc oui, on va commencer par une petite présentation de chacun d'entre vous, candidat à la mairie de Laval, présent en plateau ce midi. Présentation que nous avons voulu par ordre alphabétique. On commence donc avec vous, Martine Hamelin. Bonjour.
Bonjour.
Martine Hamelin, vous avez donc 70 ans, vous êtes retraitée de la RATP, vous êtes candidate aux élections municipales à Laval pour la troisième fois, vous représentez pour ce scrutin le parti Lutte Ouvrière avec votre liste Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs. Ensuite, Florian Berco, bonjour.
Bonjour.
Florian Berco. Florian Berco, vous êtes maire de la ville de Laval depuis 2020, également président de l'agglomération. Vous avez 35 ans, anciennement chef d'entreprise. Vous présentez la liste d'union de la gauche Laval à venir, soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Écologistes, le Parti Radical de Gauche, Génération et Place Publique. Avec nous également Thomas Brissot, bonjour.
Bonjour.
Thomas Brissot, 26 ans, vous êtes commercial. Pour ces élections, vous défendez les couleurs du Rassemblement National, dont vous êtes le délégué départemental en Mayenne. Il s'agit de votre deuxième campagne après les législatives en 2024 dans le Maine-et-Loire. Votre liste, le Rassemblement pour Laval. Et enfin, Samia Soultani-Vigneron, bonjour.
Bonjour.
Samia Soultani-Vigneron, 54 ans, maître de conférences à l'université. Vous êtes également conseillère municipale dans l'opposition et vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous défendez une liste d'hiver droite, son nom avec vous, pour Laval. Et puis donc, on le disait, un cinquième candidat qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il s'agit de Kamel Ogbi avec donc la liste Laval en commun, candidat La France Insoumise et conseiller municipal dans l'opposition également. Kamel Ogbi donc qui a été invité par nos soins mais qui n'a pas pu venir du fait d'une indisponibilité.
Merci pour ces présentations, Simon. Au cours de ce débat, nous allons aborder plusieurs grands thèmes qui structurent cette campagne municipale. Nous parlerons d'abord de sécurité, nous évoquerons ensuite le pouvoir d'achat et les finances locales. Nous nous pencherons également sur l'attractivité de Laval et l'avenir du centre-ville. Nous aborderons aussi les questions d'environnement et de cadre de vie. Et enfin, nous terminerons avec la vie associative et la qualité de vie à Laval. Autant de sujets sur lesquels nous allons vous entendre aujourd'hui. Avant de lancer la première thématique, un mot sur la santé qui apparaît dans plusieurs de vos programmes. C'est un sujet important, mais qui relève en grande partie de compétences nationales. Donc malgré certains leviers possibles pour les communes, nous avons fait le choix de ne pas l'aborder aujourd'hui afin de pouvoir approfondir les thématiques municipales autant que possible avec vous. Donc on va commencer par aborder un sujet qui a pris une place importante dans cette campagne municipale, la sécurité. C'est un thème régulièrement mis en avant par plusieurs candidats, donc avec des propositions qui reviennent souvent, renforcement de la police municipale, développement de la vidéoprotection, vidéosurveillance, aménagement urbain pour prévenir certains actes. Mais pour poser le cadre, rappelons quelques éléments issus du dernier état des lieux présenté à la préfecture de la Mayenne en février dernier. Les chiffres pour 2025 montrent une situation qualifiée de modérée par rapport à d'autres territoires. La délinquance globale progresse que très très légèrement, avec plus 0,38%. Les atteintes aux personnes sont en baisse, avec notamment une grande baisse de la délinquance des mineurs. Certaines atteintes aux biens sont en très légère hausse, vol de véhicules ou d'objets dans les véhicules. Les escroqueries augmentent également. On parle là d'appels, de messages frauduleux, faux coursiers. Une évolution que les autorités décrivent comme contrastée, mais qui place toujours la Mayenne parmi les départements les moins touchés d'un point de vue national. La question qui se pose alors pour une ville comme Laval est la suivante. Quelle réponse politique apporter et avec quels moyens? Quelle place cette question doit-elle occuper dans le budget municipal? Quelle part des finances public y consacré au regard de la réalité des chiffres. Et au-delà des outils, police municipale, caméra, aménagement urbain, se pose aussi une autre question. Où placer la limite entre sécurité et liberté individuelle ? Enfin, quel choix de stratégie faites-vous ? Une réponse principalement répressive ou bien aussi un travail sur les causes de la délinquance ? C'est un peu comme ça que j'ai envie de cadrer cette question-là pour commencer. Et donc, pour commencer, j'ai envie de donner la parole à Martine Hamelin.
Eh bien, merci. Alors, moi, je vais commencer par ce que je ressens de l'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité principale pour la classe ouvrière, c'est les questions du lendemain. C'est les questions d'emploi, c'est les questions de salaire, évidemment, de paiement, de tout ce qui touche à la vie de tous les jours. Aujourd'hui, un ouvrier, il est pas capable. Il y en a énormément qui sont en situation tellement précaire, qui sont incapables de savoir comment ils vont vivre le lendemain. Est-ce que la fin de la trêve hivernale va pas être synonyme d'expulsion ? Est-ce que ça va pas être synonyme de coupure d'électricité ? Est-ce que ça va pas... qu'est-ce que ça va engendrer ? Est-ce que demain le patron va pas annoncer un plan de licenciement ? C'est ça la première insécurité que vit aujourd'hui le monde du travail. Donc effectivement, après, on peut tout mettre dans le volet sécurité. Si on veut parler de petite délinquance, c'est le terreau sur lequel ça pousse, c'est la misère. Donc on éradique la misère et puis on réglera. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais fait de... On n'est pas pour la police municipale, on n'est pas pour l'armement de la police, ni le doublement, ni quoi que ce soit, ni même les caméras. Voilà, on pense que il faudrait que tout le monde puisse vivre décemment pour qu'il n'y ait pas autant de délinquance. Et autre chose aussi, on peut parler aussi des modèles. Quand on voit nos dirigeants qui sont tous condamnés les uns ou les autres pour des faits divers et variés de vol, de la délinquance au col blanc, je dirais. Effectivement, c'est vrai que derrière, il y en a qui se disent si eux ils le font, pourquoi moi je le ferais pas à mon niveau. Voilà, c'est tout ce que...
On peut donner la parole maintenant à Florian Berco. Vous êtes donc tête de liste pour la liste Laval à venir.
Oui, la sécurité, c'est la première des libertés. Et si on veut vivre les uns avec les autres, il faut pouvoir se sentir en sécurité quand on sort de chez soi et notamment sur l'espace public. L'insécurité, elle prend différentes formes et elle a évolué. L'insécurité à Laval et en Mayenne en particulier, on a un phénomène nouveau qui est le narcotrafic, le trafic de stupéfiants qui est partout dans tous les villages, toutes les villes, toutes les métropoles de France. Et évidemment, il faut travailler de manière coordonnée, police municipale et surtout nationale, parce que c'est un sujet éminemment régalien. C'est pour ça que je n'aurais cesse d'être vigilant sur les effectifs de police nationale, les systèmes d'information qu'on met à disposition de la police nationale et travailler de manière coordonnée. Nous, la police municipale, pour de l'information, pour mettre des dispositions de vidéo protection à disposition pour informer de ces trafics et y mettre fin. Je crois que c'est bon pour tout le monde parce que ça touche tout le monde. Tout le monde est consommateur de stupéfiants, les riches, les pauvres. Et malheureusement, ce sont derrière des drames humains et sur lesquels il faut évidemment être pleinement mobilisé. Et je l'ai été depuis maintenant 6 ans. Après, il y a la sécurité du quotidien. Elle est attendue et c'est là où la ville joue un rôle important. Et cette sécurité du quotidien, elle passe d'abord par la présence sur le terrain tout au long de l'année, dans tous les quartiers. C'est pour ça que dès le début du mandat, on a souhaité doubler cette police municipale, lui donner des moyens pour agir sur la lutte contre les incivilités, la propreté, la vitesse, la cohabitation, vélo, trottinette, voiture. Ça, c'est des sujets sur lesquels la police municipale est attendue. On avait pris beaucoup de retard ces dernières années en termes d'action. Et donc, moi, je suis assez heureux de voir des résultats petit à petit. On teste aussi des caméras de vidéo-verbalisation autour des points d'apport volontaires et ça fait quelques effets dissuasifs et je ressens ces effets même s'il n'y a pas de solution magique en la matière. Donc je crois qu'il faut laisser à la police municipale son rôle de prévention, de travailler évidemment avec les associations, avec les différents acteurs et notamment les bailleurs sociaux qui ont un rôle important pour la tranquillité publique. Et moi je constate que les résultats sont là, la délinquance est contenue, il y a une hausse avec un pic atteint en 2024 et une baisse de la délinquance sur 2025. 5, 7%, c'est 300 faits délictuels en moins. Et puis l'indicateur que je regarde le plus, puisque c'est au cœur de la compétence municipale, c'est l'école, c'est nos jeunes, notre avenir, et on veut investir dans cet avenir. Et aujourd'hui, les jeunes sont moins délinquants qu'avant, avec une division par 2 sur 6 ans de la délinquance des mineurs, donc plus que sur le département de la Mayenne. Et ça, c'est grâce aux moyens qu'on met dans l'éducatif, dans le périscolaire, dans l'extrascolaire, dans l'accompagnement des familles. Et ça, on peut s'en réjouir. Et je crois que c'est un satisfecit collectif aujourd'hui et un motif d'espoir pour la sécurité et la réussite de nos jeunes demain à Laval.
Merci Florian Bercot. Je donne maintenant la parole à Thomas Brissot pour la liste Le Rassemblement pour Laval. On vous écoute.
Alors déjà, moi je suis content de voir que M. Bercot a bien conscience des problématiques de police municipale. Je pense que ça, en effet, on a un souci à ce niveau-là et que c'est important de prendre conscience de ces problèmes pour pouvoir y pallier. Pour ça, il faut commencer évidemment par donner à la police municipale les moyens d'agir. Ça passe évidemment par son armement. Lorsqu'on leur demande de faire des missions de nuit notamment, et c'est évident qu'il faut que les policiers municipaux, ce ne sont pas des sous-policiers, donc il faut évidemment leur donner les moyens de faire le travail pour lequel on les mandate. Évidemment, leur donner les moyens d'effectifs également, puisqu'aujourd'hui, la police municipale, si vous essayez de l'appeler la nuit, que ce soit pour un tapage nocturne ou autre, eh bien, la nuit, ils sont pas là, le week-end non plus. Et ça, c'est pas pensable dans une ville d'ampleur comme Laval. On peut pas imaginer avoir une police municipale qui ne soit pas disponible, puisque, de fait, à chaque fois qu'on appelle la police municipale et que celle-ci n'est pas là, c'est la police nationale qui doit prendre le relais. Et pendant que la police nationale fait ce travail qui concerne des incivilités, en fait, comme j'évoquais les tapages nocturnes, eh bien, de fait, elle ne peut pas faire son travail qui concerne l'insécurité. On parlait du trafic du drogue tout à l'heure. Donc oui, je pense en effet qu'il faut augmenter les effectifs, puisqu'aujourd'hui on est à 10, il faudrait passer à 30. Pour permettre à cette police municipale d'être présente 24 heures sur 24 en leur donnant les moyens, les camions, l'équipement et en leur donnant également les moyens de vidéosurveillance. C'est pareil, ça a été augmenté. Je pense qu'il faut continuer dans cette augmentation-là. Notamment, on parlait des points de dépôt volontaires, donc les poubelles hein, dans les quartiers. Je pense qu'il est important de pouvoir sanctionner lorsqu'on a des comportements de nouveau d'incivilités qui sont pas acceptables aujourd'hui. Je pense, là, j'étais très récemment boulevard Murat, où on a c'était un véritable dépotoir, hein, vraiment. On peut même pas passer d'une poubelle à l'autre, tant il y a des poussettes, des canapés, voilà. Tout ce genre de choses, c'est des choses où, malheureusement, ça passe par l'éducation, évidemment, mais l'éducation, ça se fait sur le temps long. Et là, sur le temps court, il faut commencer par sanctionner. On peut pas accepter, puisque d'ailleurs, c'est tous les riverains qui vont subir ces problèmes-là. Et évidemment, le tapage nocturne, c'est la même chose. Il viendrait à l'idée à des personnes autour de cette table de venir s'installer avec sa voiture, musique à fond à 3h du matin en bas d'une tour d'immeuble. Pourtant, c'est des choses qui se font. Et donc, malheureusement, dès lors que l'éducation n'a pas forcément été adaptée, eh bien, il faut venir sanctionner ce genre de comportement-là. Et c'est pas à la police nationale de venir le faire. C'est le rôle de la police municipale.
Merci, merci Thomas Brissot pour votre intervention. Je me tourne vers vous maintenant, Samia Sultani. Qu'est-ce que vous avez, vous, à ajouter avec votre liste, avec vous, pour Laval ?
C'est un sujet qui prend une part importante pendant cette campagne, parce que c'est la réalité, c'est le quotidien des Lavalloises et des Lavallois. Donc ce ne sont pas des inventions de l'esprit, c'est une réalité. Quand on sillonne les quartiers, on voit bien qu'il y a des souffrances de familles, de mères de familles isolées qui peinent à élever son enfant dans un contexte très compliqué. Les nuisances sonores, bien sûr, le soir, le trafic de drogue, bien évidemment. Moi, je me réjouis des résultats de 2025 par rapport à 2024, parce qu'on a perdu 4 années de laxisme à la ville de Laval avec le refus et l'ignorance. En fait, on a ignoré complètement la réalité du terrain, ce qui remontait du terrain. Et aujourd'hui, on voit bien que la vidéoprotection porte ses fruits. Si on n'avait pas, on s'était pas mobilisé, la préfète s'était mobilisée pour que la ville de Laval bénéficie d'enveloppes d'aide à l'installation de vidéoprotection, puisque c'était refusé jusque-là. Et c'est une ville comme Château-Gontier qui en a bénéficié au détriment de la ville de Laval. Laval, avec notamment l'installation de plus de 200.
Vous dites faux, Madame
Sultani. Notamment la.
Le FIPD.
Un peu de respect, un peu de respect, un peu de respect, un peu de respect. Un peu de respect, un peu de respect.
Un peu de respect. Vous aurez le droit de répondre à l'issue.
Donc si je peux aller jusque, si je peux aller jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas au conseil municipal où vous coupez les micros aux opposants, donc si vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout par respect. Donc ce que je disais, c'est que il y a quelques années, la préfecture a bien proposé une enveloppe à la ville de Laval qui a été refusée, et c'est Château-Gontier qui en a bénéficié. Aujourd'hui, à Château-Gontier, nous avons plus de 200 caméras de vidéoprotection à Château-Gontier. À Laval, on en a 80. Donc c'est juste pour vous dire l'écart. Et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres villes, comme Vitré par exemple, comme Bourges, qui sont clairement largement dotées, on voit bien qu'il y a un écart qui est lié à l'idéologie et au dogme. Et moi, encore une fois, je me réjouis des résultats. Et on apporte aujourd'hui la preuve que tout ce qu'on demandait depuis 2020 porte ses fruits. La police municipale, bien entendu, il faut la doubler, voire la tripler. Elle n'a pas été doublée. Ça, c'est un autre problème du bilan de la mandature en cours, puisqu'il y a eu une promesse de campagne du doublement et on n'arrive toujours pas à doubler. À un moment donné, on se pose la question, pourquoi on n'arrive pas à doubler? Pourquoi ces postes ne sont pas attractifs à la ville de Laval, alors qu'une ville comme Vitré, il frappe à la porte, il n'y a pas de place pour les recruter? Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un constat et retirer ses lunettes roses pour voir la réalité de la ville de Laval, les dégradations qu'on vit tous les jours. Et puis je rajouterai juste un point très important, c'est que certains qui habitent dans des quartiers privilégiés ne voient pas ce que les gens subissent au quotidien, les nuisances. Et moi, quand j'entends des mamans qui me disent « Nous, on est ici dans une prison à ciel ouvert », parce que quand on demande de déménager de certains quartiers, on nous le refuse parce que certains quartiers sont devenus pas du tout attractifs avec tout ce qui s'est passé, les émeutes et puis le trafic de drogue qui est aujourd'hui dans l'ensemble des quartiers lavallois.
Merci Samia Sultani. Florian Berco, je vais vous redonner la parole en réponse à ce qui a été, à ce qui vient d'être dit, évidemment. Ce qui compte pour moi aussi sur cette thématique, ce qui compte pour nous, c'était aussi la place du budget, la priorité par rapport au budget municipal. À quelle place vous mettez cela? Et je rappelle les chiffres, évidemment, les auditeurs pourront se repencher sur les chiffres donnés également par la préfecture concernant cette question d'insécurité et de délinquance que j'ai indiqué Avant le début de cette prise de parole. Florent Berco, c'est à vous.
Oui, je ne veux pas laisser passer des mensonges, tant sur le respect que j'ai, évidemment, différents candidats en tant que bon démocrate, que sur les faits, puisqu'on a toujours demandé des enveloppes de sécurité. On a même eu 400 000 euros de plan vidéoprotection à 80% financé par l'État. L'État qui n'avait pas assez de FIPD, la fameuse enveloppe pour les caméras, qui l'a mis sur la décile, pour être tout à fait précis, ce qui n'est jamais vu. Ça montre bien que l'enveloppe n'était pas suffisante parce que la ville avait pris beaucoup de retard. Moi, quand je suis arrivé en 2020, en pleine période du Covid, on avait une police municipale qui avait rien, même pas de caméra piéton, avait des vieux vélos à peine électrifiés, des vieux véhicules. Donc moi, j'aime bien les leçons, mais j'aime bien rappeler la réalité d'où l'on part, avec un candidat Didier Pilon qui voulait juste un policier municipal en plus. Donc moi, les leçons des uns, des autres, le retard et puis les mensonges qui s'est rien passé pendant 4 ans, je crois qu'on démontre à la fin, les résultats sont là, les actions sont là, le développement des caméras, de la présence et toutes les actions de prévention, les actions dans les écoles sont là. Donc je ne peux pas laisser passer, désolé Madame Sultani, mais j'ai un profond respect aussi pour la vérité.
Alors je peux me permettre, parce que traiter un candidat de menteur, je pense que c'est très grave. Moi, j'invite l'ensemble des Lavallois à écouter les conseils municipaux de 2020 jusqu'en 2024, quand j'ai fait une intervention qui a duré un bras de fer avec le maire de Laval, qui a duré 1h30, pour lui faire prendre ses responsabilités. On a demandé à l'époque un adjoint à la sécurité qui nous avait été refusé pendant 4 ans. On avait demandé de la vidéoprotection, on nous a traité de presque fachos puisqu'on regardait trop CNews. Donc moi, j'invite l'ensemble des Lavallois, comme ça ils verront la vérité de ce qui s'est passé ces 6 dernières années sur ce sujet de sécurité, et on rattrape aujourd'hui le temps perdu en copiant-collant les propositions de l'opposition. Moi, j'en suis ravie parce que ça nous donne raison.
En tout cas, en septembre 2023, vous disiez que Laval était la capitale du grand banditisme du Grand Ouest.
Oui, à cause de vous, à cause de vous, monsieur Berco.
Ce sont des propos dignes de CNews, madame Soultani, je le réitère.
À cause de vous, monsieur Berco.
Merci. Merci. Je rappelle qu'au classement, le département de la Mayenne, là, c'est un chiffre qui concerne le département, dans le classement national, en termes d'insécurité, de délinquance, le département mayennais se situe à la 69e place sur 96. Ce qui permet aussi d'entendre ces chiffres et vos propositions d'une certaine manière. Peut-être avant de passer à la thématique suivante, je me permets de vous reposer la question, où placer la limite entre sécurité et liberté individuelle? Et peut-être, alors, est-ce que par rapport à ces questions d'insécurité, votre principale réponse est répressive, ou est-ce que, on a pu l'entendre hein, de vos bouches un petit peu, vous comptez aussi miser sur un travail sur les causes de la délinquance?
Écoutez, Thomas Brissot. Moi, je veux bien. Pour moi, les principales causes de la délinquance, Madame Hamelin a dit tout à l'heure que c'était la misère. Alors, je ne pense pas que ce soit uniquement la misère. Les départements les plus miséreux de France, c'est la Creuse et autres. Je ne pense pas que ce soit les départements où il y a le plus de délinquance de France non plus. Donc, c'est que ce n'est pas uniquement la misère. C'est, à mon avis, beaucoup un sujet d'éducation. Il y a d'ailleurs, je trouve que c'est déresponsabilisant de dire que c'est des questions de misère. Je connais des gens, et des gens qui d'ailleurs sont sur ma liste, et d'autres qui sont des amis proches, qui ont des difficultés financières très fortes, et qui n'iraient pas faire du trafic de drogue, ou faire des agressions, ou du vol, ou je ne sais quoi. Donc c'est pas une question de misère, c'est une question de culture, d'éducation, en tout cas, d'éducation. On ne fait pas ce genre de choses. Et donc pour moi, l'éducation, ça se passe où ? Premièrement, ça se passe à la maison. L'école est là pour instruire. Elle va derrière devoir prendre en charge aussi une partie, un volet d'éducation, mais elle est surtout là pour instruire. L'éducation se faisant à la maison, lorsque ce n'est pas fait et que ce n'est pas fait correctement, de fait, l'État ne peut pas commencer à aller éduquer des jeunes adultes. Ce n'est pas son travail. Donc on peut faire de la prévention, on peut aller expliquer, mais je pense que les gens qui font ça ont très bien conscience que ce qu'ils font n'est pas bien. Ce ne sont pas des enfants. Ça sert à rien d'aller essayer de leur dire, de leur tirer les oreilles en leur disant « Dis donc, c'est pas bien d'aller à 3h du matin mettre de la musique à fond en bas d'une tour ou de faire du trafic de drogue. » Ces gens-là savent très bien que c'est pas bien, mais ils le font quand même. Et donc, dès lors qu'il y a une volonté délibérée de commettre quelque chose qui est une incivilité ou qui vont causer des atteintes à la sécurité des Lavallois, eh bien, dans ces conditions-là, en effet, il faut rentrer dans de la répression. La répression, c'est pas un gros mot. La répression, elle n'est pas là pour venir faire un état policier qui oppresse les gens. La répression, elle est là pour protéger les gens, justement, de ce genre de comportements-là qui sont toxiques pour tout le monde. Donc, en effet, il y a un volet qui sera un volet de prévention. Mais la prévention seule, je repense à M. Ogbi qui n'est pas là, mais vous voyez, je vais me permettre de lui faire référence, qui parlait uniquement de l'aspect prévention hier lors de notre dernier débat. Je pense que ce n'est pas suffisant, parce qu'on a déjà vu qu'en essayant comme disait Mme Soultani, en parlant des lunettes roses, en ayant un peu cette idée que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, eh bien on finit par avoir un comportement laxiste qui encourage ce genre de problème. Donc pour moi, il ne faut pas avoir peur de dire que la répression, c'est une partie de la solution et qu'il faut l'assumer.
Merci Thomas Brissot. Je le répète, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous êtes tête de liste pour la liste, le Rassemblement pour Laval. On a forcément tout au long de ce débat un œil sur le temps de parole. Donc j'ai envie de vous proposer éventuellement Martine Hamly pour la liste, la lutte ouvrière, le Parti des travailleurs, d'éventuellement vous prononcer sur cette thématique.
De toute façon, moi je l'ai dit lors de ma première intervention, on n'est pas pour la répression, on n'est pas pour les caméras partout, la police municipale armée. Effectivement, la délinquance, ça se règle dès le début. Oui, c'est la misère matérielle, la misère intellectuelle, le fait que les exemples qu'on peut donner, parce que les exemples, on peut les prendre aussi chez des beaucoup plus riches ou beaucoup plus mieux placés, qui sont des délinquants en puissance. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce thème-là. Je pense qu'on ne tombera pas d'accord. Donc, bon, voilà.
Peut-être juste un dernier tour de table très rapide sur la sécurité. À quel point ça pourrait compter dans un budget sur un an, la sécurité, chez chacun d'entre vous, Martine Hamelin, pour commencer peut-être.
Alors, la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, est tout à fait consciente de la place qu'elle a dans ces élections. Et on a dit qu'on ferait dès le départ, on ne ferait pas de propositions typiquement lavalloises, donc avec des chiffres lavallois, avec des propositions d'aménagement purement lavalloises. On a un plan national pour les travailleurs et on s'y tiendra. Donc voilà. C'est ma façon de répondre à votre question.
Très bien, merci beaucoup. Florian Berco.
Nous, on a déjà investi plus d'un million d'euros dans la sécurité en plus sur le mandat. C'est conséquent quand on connaît la fragilité financière de la ville. Et donc c'est pour ça qu'on a des propositions d'équilibre raisonnées, modérées. Et permettez-moi aussi de parler des questions de prévention, notamment une statistique qui a beaucoup évolué, c'est les violences intrafamiliales. On n'en parle pas, mais c'est quand même le deuxième fléau après le trafic de stupes qui est nouveau et qui explose. C'est pour ça qu'on a accompagné la création de la Maison des Femmes, mis en place une campagne de sensibilisation au 39-19 et puis le violentomètre. Et on va continuer à soutenir les associations de lutte pour les droits des femmes, là où d'autres collectivités font le choix de tout simplement et purement supprimer ces subventions. Il faut qu'on soit au rendez-vous, là aussi, sur le volet préventif et la mairie à des prérogatives.
Thomas Brissot, sur la place que pourrait avoir la sécurité dans votre budget.
Alors, donc pour nous, vous avez bien compris que c'est une place qui est de fait assez importante dans notre programme. Donc forcément, dans le budget, elle va aussi avoir sa place. Donc on avait fait les calculs sur en prenant en compte les différents policiers supplémentaires, donc 20 policiers de plus. On passerait de 10 à 30. L'équipement, les nouveaux véhicules, l'armement, etc. Et ça augmente globalement le budget de fonctionnement d'environ 1 million, un peu plus, annuellement. Donc ça reste largement dans le budget de la mairie. C'est quelque chose qui, selon nous, nous semble une priorité et qui se justifie, et que d'ailleurs on vient récupérer en partie à d'autres endroits. Mais pour nous, c'est, comme le disait Monsieur Berco tout à l'heure, la sécurité, c'est la première des libertés. C'est une phrase que l'on dit nous-mêmes très souvent. Et donc c'est pas un sujet sur lequel on peut faire l'impasse pour des questions de budget, dès lors évidemment qu'on rentre pas dans des sommes astronomiques. Un million d'euros sur l'échelle du budget de Laval, c'est largement raisonnable.
Merci. Samia Soultani, pour finir sur cette question.
La prévention, elle est bien sûr essentielle. Elle commence par donner une chance à chaque jeune, bien évidemment. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la misère. Il y a bien des familles qui habitent dans des conditions très difficiles, dans des quartiers très difficiles. Et je les côtoie tous les jours. Leurs enfants réussissent à l'école. Il faut qu'on lutte contre le décrochage scolaire parce que c'est par l'école que les jeunes vont s'en sortir. C'est une évidence. On voit bien aujourd'hui, et je le reconnais, que l'éducation nationale se dégrade parce qu'il y a moins de moyens, qui va du primaire jusqu'au supérieur. Mais ce n'est pas à la main du maire, bien évidemment. Mais en tout cas, au niveau de la mairie, il faut faire de sorte à ce que les jeunes soient accompagnés. Nous proposons plusieurs équipements aussi pour les occuper, parce que ça passe par la culture, ça passe par le sport, et il faut qu'on arrive à leur donner leur chance, notamment pour les stages, notamment pour l'orientation. Aujourd'hui, quand moi je prends ma casquette de maître de conférence à l'IUT de Laval, lors des portes ouvertes, on ne voit quasiment pas les jeunes des quartiers. C'est une réalité. Pourquoi ? Ils ne sont pas moins malins que les autres, ils ont un cerveau, ils travaillent, ils sont travailleurs, mais il faut les accompagner. Et ce qu'on propose dans le cadre de ces municipales, c'est qu'on puisse identifier les jeunes en première qui souhaitent aller à la rencontre d'autres étudiants pour découvrir les formations sur notre département, et les accompagner spécifiquement, les faire accompagner par les animateurs du pôle jeunes, pour qu'ils puissent découvrir déjà toutes les perspectives, leur ouvrir des horizons qu'ils ne voient pas aujourd'hui. Ça, c'est du concret pour assurer la prévention de la délinquance et le décrochage scolaire. Autrement, il y a évidemment les médiateurs de rue qu'il faut mettre sur le terrain. Il faut en fait marcher sur ses deux jambes. On ne peut pas parler prévention, parce que ça ne suffit pas, dans la mesure où il y a toujours ceux qui vont sortir du cadre. On le voit avec nos propres enfants. Il faut donner un cadre et le faire respecter par chacun, puisque à chaque fois, je le dis et on le sait, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. À partir du moment où on nuit au quotidien des gens, à partir du moment où on ne respecte pas les règles, il faut des sanctions. Et pour incarner, en fait, il faut une incarnation. Et l'incarnation passe par le maire. Ce n'est pas la région qui a le pouvoir de police, c'est bien le maire de Laval. Ce n'est pas le département qui a le pouvoir de police, c'est bien le maire de Laval. Et il faut absolument que ce soit incarné, assumé. Et on ne se défausse jamais, 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 ni sur l'État, ni sur la région, ni sur les autres collectivités. Chacun doit assumer ses responsabilités.
Merci Samia Soultani. On clôt cette Grosse page de sécurité. Après la sécurité, deuxième grand thème de ce débat, deuxième grande préoccupation des Français, des Lavallois, il s'agit du pouvoir d'achat, très concernant particulièrement en ce moment avec le conflit au Moyen-Orient qui se répercute sur les prix à la pompe à essence, par exemple. Je sais que vous ne pouvez pas y faire grand-chose, vous, à votre niveau. Mais au niveau communal, quand on parle de pouvoir d'achat, on pense, par exemple, aux impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation. Alors, d'une part, est-ce que vous comptez augmenter ces impôts? D'autre part, est-ce qu'il y a des projets, des moyens aussi, qui peuvent être mis en place pour améliorer le pouvoir d'achat des Lavallois? On peut commencer avec vous, Martine Hamelin. Ou avec Florian Berco, pardon. Excusez-moi.
Oui, nous, c'est une de nos priorités. Et c'est pour ça que vous le retrouvez, d'ailleurs, en dessous des 15 propositions phares, c'est agir pour le pouvoir d'achat. Et c'est d'autant plus pertinent au moment où, malheureusement, la géopolitique s'invite dans nos vies. On voit que la vie est difficile, surtout dans un territoire comme le nôtre, qui est un territoire de travailleurs. Hein, et on est assez fiers, d'ailleurs, d'avoir un taux de chômage aussi faible qui permet à chacun de vivre. Mais on voit bien qu'à la fin du mois, ça reste compliqué. Et là, la ville peut agir en soutenant ce pouvoir d'achat. Nous, on a des propositions très concrètes. Par exemple, face à l'explosion du coût des complémentaires santé, puisque l'État dérembourse de plus en plus pour sauver la sécurité sociale, et nous souhaitons mettre en place ce que d'autres communes de l'agglomération, comme le Bourgneuf-la-Forêt ou Entrammes, ont expérimenté, des mutuelles municipales où la ville accompagne, notamment pour les retraités, l'inflation et permet de faire des contrats groupés à travers cette mutuelle municipale. On pourrait citer aussi la tarification sociale des services publics, et c'est important. Quand nous avons mis la cantine à 1 euro pour les plus modestes, ça a du sens. Quand on a une tarification sociale aussi pour les temps périscolaires, ça a du sens. Quand on met en place la gratuité le week-end des Tulles, ça a du sens. On veut même aller plus loin avec la gratuité le mercredi. On se dit que c'est une journée intergénérationnelle où les enfants, les grands-parents, les parents peuvent se retrouver et là aussi permettre de s'émanciper, de s'ouvrir à la ville, de sortir de son quartier. Voilà, c'est autant de soutien direct et indirect au pouvoir d'achat. Et puis, on pourrait parler du logement, qui est une grande politique. On voit encore sur un mandat, un plus que doublement de demandes de logements sociaux à Laval. Ça montre le niveau de précarité que peuvent avoir les Lavallois et Lavalloises. Et donc je crois qu'on doit continuer à développer, à rénover nos logements sociaux, des logements dignes, des logements aussi en accession pour les familles, les primo-accédants. Ça me semble important. On va continuer à les accompagner. Et enfin, ce logement, en 2017, représentait 20% du pouvoir d'achat des Lavallois. Il est à 30% aujourd'hui, en 2026. Il faut qu'on continue à développer cette politique logement, cette rénovation, pour aussi éviter les charges du logement, notamment les charges énergétiques. C'est pour ça que dans notre projet, on a un réseau, notamment d'un deuxième réseau de chaleur sur le nord-est de la ville, qui permettra, je l'espère, de dépendre moins, notamment du gaz.
Alors, je précise, hein, vous me coupez si je me trompe, mais les Tulles concernent l'agglo, hein, pas la
ville. Tout à fait, mais le maire de Laval peut tout à fait être président de Laval Agglomération.
Il sera sur une prochaine élection.
Il sera sans doute élu communautaire. Tout à fait. Ouais. En tout cas, j'ai démontré ma capacité à rassembler pour avancer sur le mandat passé, puisque la gratuité des Tulles le week-end a été votée à l'unanimité des élus communautaires.
Thomas Brissot, sur cette question du pouvoir d'achat.
Alors bah déjà pour commencer, évidemment que nous n'augmenterons pas les impôts, ça c'est de nouveau un engagement que le Rassemblement National fait au niveau national, donc évidemment que nous appliquons à Laval. Ensuite, là où on dépense, c'est déjà, Monsieur Berco en parlait à l'instant, mais je l'avais déjà noté, je vous rassure, la rénovation des passoires thermiques, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué encore hier. Je le sais puisque je le vis, on dépense beaucoup plus d'argent l'hiver dans le chauffage lorsque l'on a une maison ou un appartement qui est mal isolé. Et donc déjà, c'est une question qui est une question qui concerne l'écologie également, mais c'est une question qui concerne aussi le budget au quotidien des Lavallois. Donc de fait, déjà, je pense par exemple à un certain nombre de logements, déjà certains logements sociaux, mais également des logements dans le centre-ville. Le centre-ville qui s'est en partie dépeuplé, aussi à cause de certains immeubles et appartements qui sont vieillissants. Et du coup, justement, des passoires thermiques. Donc déjà, ça permettra de concerner un certain nombre de Lavallois et de leur faire une petite baisse sur leur budget mensuel. Enfin, évidemment, les transports en commun. Alors, à titre personnel, je pense évidemment qu'on maintiendra les gratuités qui ont déjà été mises en place. Mais je pense cependant que la gratuité n'est pas forcément la solution de manière systématique parce qu'on ne prend pas forcément conscience de l'importance de tout ce qui va être mis à disposition par la commune. Je pense qu'il faut permettre que ce budget soit très accessible, potentiellement en baissant les prix annuels des transports en commun, mais sans rentrer nécessairement dans une gratuité. L'important, c'est que chacun puisse payer facilement cet abonnement, mais pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, c'est plus facile avec un abonnement de prendre le bus toute l'année plutôt que de profiter simplement des moments de gratuité le mercredi et se dire mince, le jeudi je peux pas y aller, etc. Donc globalement, ça c'est un point qui va être évidemment important. Et puis enfin, la redynamisation du centre-ville qui est dans notre programme, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'augmenter le nombre d'emplois, d'augmenter le nombre de possibilités en centre-ville, et donc qui de fait peut avoir un impact positif sur l'ensemble des Lavallois au niveau économique.
Merci Thomas Brissot, Samia Sultani. Comment on fait pour améliorer le pouvoir d'achat des Lavallois?
On a plusieurs leviers qu'on peut mobiliser. Et il y a plusieurs catégories de populations auxquelles il faut s'intéresser, bien évidemment. On parle de logements sociaux, mais il faut arrêter de ne rénover que la façade. Il faut absolument rénover les logements. Ce n'est pas obligatoire pour les bailleurs sociaux, mais je rappelle juste que le siège d'un bailleur social a coûté 15 millions d'euros. Au détriment aussi des locataires, c'est, il faut le dire, 15 millions d'euros à Laval, c'est par rapport au nombre de mètres carrés, c'est 5 000 euros le mètre carré. C'est le mètre carré le plus cher dans le département. Et cet argent, moi, je le mettrais dans la rénovation des logements, notamment des personnes qui sont locataires depuis 30 ans, 40 ans, et quand on visite leur logement, c'est dans un état mais lamentable, il va falloir mettre le paquet là-dessus. Il y a le programme de rénovation urbaine, bien sûr, qu'il faut accélérer, parce qu'il permet aussi d'avoir des leviers pour pouvoir rénover le parc social. Et puis, il y a le parc privé, bien évidemment, qui permet d'accéder à ces logements. Juste un sujet qui concerne les jeunes. J'y reviens, parce que c'est aussi un sujet. On a aujourd'hui un quart des étudiants qui ont moins de 100 euros par mois. Donc, c'est un public qui est de plus en plus fragile. Il y a l'épicerie sociale qui a été installée, notamment sur le campus universitaire. Aujourd'hui, les associations de solidarité sont débordées parce qu'il y a plus de 700 étudiants qui fréquentent ce lieu, ce qui montre le besoin, clairement. Bien sûr, zéro hausse d'impôts, bien sûr, une meilleure gestion municipale. Nous n'allons pas dépenser de l'argent et des centaines de milliers d'euros dans des expérimentations stériles qui mènent à rien. Et puis, il va falloir faire des économies sur les marchés publics. On a des marges de manœuvre, il faut absolument les engager. Concernant la mutuelle communale, c'est un réel sujet, bien évidemment. C'est dans notre programme. C'est une promesse du maire sortant de 2020 qui n'a pas été tenue. Nous la tiendrons, bien évidemment. Et puis, pour ce qui est des jeunes, nous mettrons en place un pass jeune Laval pour les aider à financer notamment leur licence sportive, activité culturelle avec des bons chez les commerçants, ce qui permettra de faire d'une pierre deux coups pour pouvoir redynamiser le centre-ville également et faire de sorte à ce que les jeunes fréquentent aussi le centre-ville. Il y aura également une bourse initiative jeune pour le soutien financier municipal pour les projets portés par les jeunes. Il faut les valoriser, il faut leur faire confiance. Et puis, également, un programme 100 jeunes pour Laval qui va être lancé à partir de 2026 pour accompagner, parrainer, aider à trouver un stage pour les jeunes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est d'avoir un réseau qui leur permet d'accéder à ces facilités.
Merci Samia Sultani. Pour terminer le tour de table, Martine Hamelin.
Eh bien, on va un peu dénoter à Lutte Ouvrière, puisqu'on a on a annoncé qu'on se présentait sur un programme qui est beaucoup plus national que local. Quand on dit que les élections, y compris municipales, ne servent pas à grand-chose pour le sort des travailleurs, on pense que effectivement le pouvoir d'achat il passera par l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, on est à des salaires qui n'ont jamais été aussi bas. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont payés au SMIC. C'est quand même, il n'y a jamais eu autant de milliardaires et il n'y a jamais eu autant de smicards. Donc il y a quand même une équation là qui semble un petit peu, qui ne va pas dans le bon sens, en tout cas qui ne va pas du tout dans le nôtre. Donc les augmentations de salaire, on les gagnera comment? Nous on est clair, hein, de toute façon, s'il n'y a pas de mobilisation des travailleurs, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Alors des mobilisations dans les entreprises, bien entendu, dans chaque entreprise, mais des mobilisations plus générales aussi, pour gagner des salaires qui permettent de vivre décemment. Et aujourd'hui, avec un SMIC, on ne vit pas décemment. La preuve, y compris l'État, met une prime d'activité parce qu'il considère que, sans doute que ça ne suffit pas pour vivre. Donc, des salaires qui permettent de vivre décemment. Et puis, la deuxième partie de mon intervention, c'est pourquoi on en est là sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, les salaires sont insuffisants, bien sûr, mais les prix explosent. Et les prix explosent pourquoi ? Je pense que quand même, c'est le dernier exemple en date. La guerre en Iran, ça date de samedi matin, et le prix à la pompe du gasoil, il a déjà augmenté. Alors que ça vient d'où ? Bon, je pense qu'il y avait quand même un petit peu plus de stock que ça. Donc, effectivement, c'est lié à la spéculation, c'est lié aux augmentations en tout genre qu'on nous impose. Bon, effectivement, l'électricité, le gaz, tout ça, ça a été revu. Les taxes sur le carburant, bon, ça, c'est on en parle régulièrement. C'est des choses qui augmentent sans cesse. Mais bon, les frais bancaires, les assurances, tout augmente, et y compris les prix à la consommation. Et quand on voit comment sont décidés les prix, notamment avec les géants de l'industrie et de la distribution, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Moi, les caméras, je les mets très bien dans les conseils d'administration de ces grosses ces entreprises-là, qui décident de combien ils vont vendre parce que ils mesurent combien ils vont verser à leurs actionnaires. Donc voilà, nous, on se battra pour des salaires décents et des salaires qui doivent suivre la hausse des prix. Salaire, retraite, évidemment, et minima sociaux.
C'est une question de salaire. Je reviens avec vous, Florian Percot. C'est une question uniquement de salaire ou ça se règle ailleurs, le pouvoir d'achat ?
Les salaires font partie du pouvoir d'achat. Nous, on aime bien parler à l'aval de reste à vivre. Finalement, quand vous avez payé toutes les charges, qu'est-ce qui vous reste à la fin ? Et ça me semble important. Et sans doute qu'à l'aval, on a un reste à vivre plus important qu'ailleurs, et notamment dans les métropoles. Mmh. Par contre, effectivement, il faut aussi des politiques qui accompagnent ceux pour qui la vie est plus difficile. Faire plus pour ceux qui ont moins était notre mantra tout au long du mandat. On a à l'aval notamment un ménage sur deux qui est constitué d'une personne seule. Donc au-delà des questions de pouvoir d'achat, c'est aussi comment on accompagne la lutte contre l'isolement, la solitude. Et donc ça, on sera très vigilants. On a un programme d'animation qui s'appellera Laval s'anime, notamment le week-end et le dimanche, en lien avec nos associations pour pouvoir se retrouver, fédérer. Ça, je crois aussi à cette fraternité qui permet de bien vivre les uns avec les autres, comme on a pu le faire lors de l'été, où on offre des animations gratuites à tous les enfants pour qu'ils puissent avoir un été, parce qu'encore de nombreux enfants lavallois ne partent pas en vacances. Je suis heureux d'avoir rétabli aussi les mini-camps qui permettent aux Lavallois de partir pas loin. Hein. Ils partent à Château-Gontier, ils partent dans le Nord-Mayenne, ils partent parfois en vélo en Normandie. Et là, on permet de partir 4 jours à partir de 20 euros. Et c'est des expériences humaines formidables. Donc on peut soutenir le pouvoir d'achat en plus en créant de la haute valeur humaine. Et c'est ce que je souhaite pour Laval.
Merci beaucoup de vos réponses. Je ne suis pas sûre que vous ayez répondu tous sur la question des impôts, de l'augmentation des impôts. Est-ce que vous voulez bien répondre ? Alors, on reprend le même tour de table avec Florian Percot pour commencer.
Nous, on s'engage à la stabilité des taux fonciers. Et même si, évidemment, les bases évoluent au national à la hauteur de l'inflation, et donc je m'inquiète de cette inflation, il faut savoir que la fiscalité locale a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, la taxe foncière ne représente que à peine 40% des recettes de la ville. On est sur un gros tiers. Et le pire, c'est au niveau de l'agglomération. Il n'y a plus de lien entre la fiscalité économique et le territoire, parce qu'on est passé de 65% de nos ressources à l'agglomération qui dépend des entreprises à un tiers, à 35% en 2026. Et ça aussi, il faut le dire à nos auditeurs, aux Lavallois, aux Lavalloises, que malheureusement, l'exonération fiscale, les choix du gouvernement ont un impact sur le lien administré entreprise et élu.
Merci Thomas Brissot. Je crois que pour le Rassemblement National, vous avez, vous, répondu sur cette question des impôts. Je peux vous relaisser...
Non, mais j'avais évoqué que nous nous engageons à l'échelle nationale à avoir aucune hausse d'impôts à l'échelle municipale. Donc ça, c'est très clair et je ferai très court là-dessus.
Merci beaucoup. Samia Soultani, avec vous pour Laval.
Oui, moi, c'est un réel sujet, effectivement, vu le contexte et la situation des Français. Et les Lavallois n'ont pas. C'est l'une des villes, et notamment dans certains quartiers. Nous avons les quartiers quasi les plus pauvres de la région des Pays de la Loire. Et je pense que c'est un effort que la collectivité doit bien sûr apporter et faire, notamment en faisant des économies, notamment en mettant en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner, si je rebondis sur les questions de pouvoir d'achat, parce que c'est aussi lié, parce que si on augmente les impôts, c'est que forcément ça impacte le pouvoir d'achat. Ce qu'on s'engage à faire, c'est la mise en place d'une demi-part fiscale supplémentaire dès le premier enfant pour le calcul du coefficient familial, et puis éviter la gratuité, parce qu'il n'y a pas d'argent gratuit, il n'y a pas d'argent magique. Il faut absolument être vigilant sur et responsable sur les finances publiques comme on l'est avec notre propre argent. Et par rapport à cet engagement, nous l'avions tenu entre 2014 et 2020. Et non seulement on l'avait tenu, mais on avait en plus baissé les impôts de 10% qui avaient été augmentés de 30% entre 2008 et 2014.
Merci beaucoup de cette réponse. Et encore une dernière question concernant le budget. C'est pas forcément le pouvoir d'achat des Lavallois, mais le budget. Vous évoquez beaucoup de dépenses à faire. Est-ce qu'il y a un poste sur lequel vous verriez faire des économies et donc proposer un budget plus restreint peut-être qu'il n'est actuellement? Donc toujours avec vous, Florian Berco.
Je vais plutôt parler de méthode. Effectivement, il y a le choix de faire moins 10% comme ça a pu être fait à l'heure de notre arrivée dans tous les services pour tenir des promesses électorales, ou alors des coupes brutales, directes, en se recentrant soi-disant sur des compétences, ou le choix de la gestion en bon père de famille. Je crois que c'est ce qu'on a fait avec Antoine Kaplan et les services, où on se pose la question chaque année, quelles sont nos priorités, parce que la politique, c'est l'art de la priorisation. Est-ce qu'il y a un renouvellement de poste à faire, oui ou non? Et donc, petit à petit, on a réussi à tenir en nos engagements, en investissant 86 millions d'euros à la fin du mandat, là où on était à 68 millions d'euros sur le mandat d'avant, et à désendetter la ville de 12 millions d'euros. Donc, je crois qu'on a démontré notre savoir-faire en termes de tenue rigoureuse des finances publiques.
Thomas Brissot, est-ce que le Rassemblement pour Laval a des postes d'économie envisagés dans le budget de la ville?
Alors, bien sûr, on a déjà évoqué la question des marchés publics. C'est évidemment quelque chose qui est dramatique. On sait que ça avait fait beaucoup parler ces derniers temps, l'idée que les collectivités territoriales puissent payer des choses 10 fois ou presque le prix auquel on le trouverait dans le secteur privé. Je pense à une conseillère municipale d'une commune que j'ai oubliée, mais qui voulait faire refaire une salle de bureau, qui achetait 5 chaises et 2 lampes, et ça lui coûtait 10 000 euros. Et elle s'était penchée sur le budget, puisque c'était quelque chose qui n'avait pas été fait avant, et qui se rendait bien compte que là, les entreprises profitent de ces fameux marchés publics pour abuser, puisque vous savez comment ça fonctionne. Les mairies ne peuvent pas choisir purement et simplement à qui elles achètent, etc. C'est quelque chose qui est très encadré pour éviter que les maires puissent favoriser certaines personnes, etc. Donc c'est quelque chose qui est évidemment important, il faut continuer comme ça, mais la mairie, il est très important, et je pense que là-dessus on est tous d'accord, de vraiment venir être très spécifique, compter chaque centime sur ce genre de marché public, quitte à parfois vraiment être tatillon pour vraiment s'assurer de payer au juste prix ce genre de choses. Et là, vraiment, il y a énormément d'économies à faire à ce niveau-là, donc ce sera déjà important. Ensuite, évidemment, également, il y a certains... une fois qu'on arriverait au pouvoir à la mairie, l'idée, c'est évidemment de regarder dans le détail au niveau des postes de qui travaille où, puisqu'il peut toujours y avoir certains endroits où certains renouvellements ne sont pas forcément nécessaires. Il peut y avoir une réorganisation, évidemment toujours en accord avec les agents, pour essayer de s'assurer que du meilleur emploi possible des personnels de la mairie. Et ensuite, évidemment, il y a aussi un sujet qui est nouveau, qui n'existait pas dans les dernières mandatures, qui est le développement récent de l'IA. Et ça, c'est tout bête, mais un certain nombre de démarches administratives peuvent être faites en l'aide de l'intelligence artificielle. Je pense à des choses tout bêtes, mais quand on appelle une municipalité pour des questions précises, eh bien des fois, ça décroche pas parce que c'est hors des horaires. Mais aujourd'hui, on ne peut avoir des IA conversationnelles qui ne sont pas les numéros tapez 1 si jamais vous voulez accéder à ça, tapez 2, qui sont des choses qui sont assez peu pratiques. On pourrait directement discuter avec une intelligence artificielle qui répond à nos questions, et ce, même sur les horaires de week-end ou le soir quand on en a besoin. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait permettre de coûter très peu d'argent sur le temps court et sur le temps long, et de permettre de réorganiser les agents eux sur des tâches qui sont vraiment des tâches importantes et prioritaires pour avoir du lien avec les Lavallois.
Merci Thomas Brissot. Et pour la liste avec vous pour Laval, Samia Sultani-Vigneron.
Ben, pensons qu'il y a effectivement plusieurs marges de manœuvre pour une ville, et la ville de Laval a en fait augmenté la masse salariale en créant une couche supplémentaire qu'on a appelée département, où l'on a mis des directeurs, et c'est ce qui est d'ailleurs dénoncé par les agents qui sont sur le terrain, ceux qui ramassent nos poubelles, ceux qui balaient nos rues. Et ils disent que les décisions aujourd'hui sont très très difficiles, les prises de décision, à cause de ces couches et ces strates qui ont été rajoutées. Nous, on s'engage déjà à supprimer cette strate de département et de directeur pour injecter plus de moyens à ceux qui sont sur le terrain. Nous privilégierons à chaque fois le terrain. On a également, et dans la continuité de ce qui a été engagé depuis 2014 pour assainir les finances de la ville, on va continuer on va assurer cette continuité républicaine pour continuer à baisser la dette, pour continuer à baisser les dépenses de fonctionnement comme la région l'a fait à juste titre pour pouvoir augmenter nos capacités d'investissement. Et puis, quand le privé est porteur d'un projet, il ne faut pas, pour des raisons idéologiques et dogmatiques, s'entêter à vouloir absolument mettre de l'argent public. Quand un projet privé est porté par le privé, il faut libérer les énergies, les laisser investir dans notre ville pour pouvoir se dégager des marges de manœuvre pour faire d'autres projets. Je pense notamment au stade à 100 millions pour pouvoir se dégager des marges de manœuvre pour rénover les salles et les gymnases. Je pense notamment à des projets comme Saint-Julien, où c'est un projet qui avait été dénoncé pendant des mois et des mois pendant la campagne de 2020, alors que c'est un projet structurant qui était porté avec zéro centime d'euros d'argent public. Et moi, je suis admirative à chaque fois de ces porteurs de projets privés qui n'endettent pas, qui ne plombent pas les finances de la collectivité, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre.
Merci beaucoup, Samia Sultani-Vigneron. Martine Hamelin, pour Lutte ouvrière, est-ce que vous voyez des économies possibles à faire sur le budget de la commune, de la ville de Laval ?
Alors, moi, je ne vous répondrai pas ville de Laval, je vous répondrai économie tout court. Effectivement, on arrive aujourd'hui à avoir une augmentation du budget de l'armée qui est exponentielle. Cet argent, il pourrait servir complètement à autre chose. L'argent, il existe. Le nombre de milliardaires a plus que doublé sur les 10 dernières années. Donc qu'on supprime les subventions aux grosses entreprises et qu'on subventionne un petit peu mieux les communes pour leur fonctionnement. Les communes, aujourd'hui, c'est les parents pauvres de la structure publique. Les dotations d'État baissent de jour en jour et on leur rajoute des compétences qu'ils doivent assumer. Donc l'argent, il existe. Il n'est pas employé là où il faut. Et ce qu'on demande effectivement aussi, qui est l'une de nos revendications importantes, c'est une totale transparence sur les versements de subventions aux entreprises, la spéculation, sur la façon dont sont décidés les prix. C'est là-dessus qu'on essaye d'intervenir. Et je maintiens, ce n'est pas une réponse lavalloise et qu'attaque. On s'attaque à la gestion de l'argent de façon nationale.
Merci beaucoup, Martine Hamelin. Florian Berco, oui, on a une minute encore sur ce sujet.
Juste pour être précis, effectivement, sur le projet Saint-Julien, auquel je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est le choix d'avoir imperméabilisé un des derniers poumons verts de la rive gauche de la Mayenne, qu'il va falloir reconstituer, qui va être coûteux pour les finances publiques. C'était ça notre sujet. Il faut être très précis dans les questions. Et puis, quand on parle du stade à 100 millions d'euros, évidemment, il ne sera pas à n'importe quel prix, il sera avec le privé. Donc aujourd'hui, on est propriétaire du stade Lavallois. Donc, soit on le vend, Mais peut-être que Madame Soultani a quelqu'un qui va acquérir le Stade Lavallois. Moi, en tout cas, à date, je ne le connais pas. Donc, c'est pour ça qu'on prend nos responsabilités en tant que propriétaire de ce stade qui nous coûte 1 million d'euros investissement et fonctionnement par an et qui, à la fin de l'opération privé-public, nous permettra de nous dégager des coûts de fonctionnement de ce stade Le Basserre. Et ça me semble important d'être précis sur la question, là où certains voudraient faire peur.
Non, il y a un projet. Je me permets de répondre.
Excusez-moi.
Il y avait un projet privé, porté par le privé à 100%, qui a été refusé pour des raisons dogmatiques. Et c'est ça qu'on dénonce, parce que quand un projet privé est porté par le privé, il permet, comme je le disais tout à l'heure, de se dégager des marges de manœuvre pour faire autre chose. Et ce projet privé de stade permettait, encore une fois déjà, de gagner probablement de l'argent sur les marchés, parce que quand on lance des marchés publics, c'est généralement 20 à 30% supérieur que lorsque le projet est porté à 100% par le privé. Et puis, se dégager des marges de manœuvre, notamment en fonctionnement, ce qui n'est pas le choix qui a été fait.
Il est où ce projet privé, Madame Soultani, et que faites-vous de Le Basserre ?
Pardon.
Il est où ? Donnez-moi le courrier, donnez-moi l'échange.
Vous savez très bien que le projet a été porté initialement par le privé.
Non, je ne sais pas.
Écoutez, c'est ce que les porteurs, c'est ce que les porteurs
peut,
du projet.
On peut vous proposer éventuellement de donner les sources sur lesquelles
oui,
nos auditeurs qui nous écoutent.
Oui, ça me semble important. Moi, je veux la preuve.
Ce sont les actionnaires,
Du Stade Lavallois, qui travaillent sur un projet privé public.
Avec lesquels on travaille depuis bien avant et qui ont effectivement proposé un projet 100% privé qui a été refusé par le maire.
On vous invite à le démontrer aux éditeurs, Madame Soultani.
À quel endroit peut-on retrouver effectivement toutes ces informations pour les auditeurs qui nous écoutent?
Mais ce sont des négociations qu'on a, puisqu'on est également dans la boucle, je représente personnellement la région, et c'est la proposition qui a été faite oralement par les porteurs de projet, les actionnaires du stade, et Monsieur Berco le sait très bien.
On attend les preuves, Madame Soultani.
Les preuves, ce sont les actionnaires, et je le dis publiquement, et si jamais c'est faux, qu'il démente ce que je suis en train de dire.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. On voit qu'il y a quand même des sujets effectivement de tension entre vous tous à l'occasion de ce débat que nous sommes heureux de co-animer avec Margot Doucet pour l'autre radio, Simon Le Baron pour Tendance Ouest et puis nous, Radio Fidélité Mayenne. Et on va prolonger ce débat avec un sujet que quelque part vous avez déjà un tout petit peu abordé, mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et il y aura sans doute un petit peu d'animation aussi sur l'attractivité de la ville de Laval et son pendant qui est le centre-ville. Et on commence avec vous, Thomas Brissot, pour le Rassemblement pour Laval, s'il vous plaît.
Alors, donc en termes d'attractivité, pour nous, ça se joue à des niveaux qui sont très différents. Et donc, il y a plein de sujets. Je vais essayer d'en aborder quelques-uns. Déjà, le sujet, c'est le sujet du désenclavement, mais qui se joue à l'échelle plutôt mayennaise. C'est-à-dire que Laval, aujourd'hui, c'est une ville, globalement, où les gens passent, malheureusement, mais ne viennent pas nécessairement. On est sur la route entre Paris et Rennes. Et donc, l'autoroute, la seule que nous avons en Mayenne, c'est Rennes-Paris. La ligne de train, globalement, c'est surtout Rennes-Paris. Et donc, moi, je pense qu'il va falloir, au niveau de la Mayenne, qu'il y ait un travail, là, plutôt départemental, de désenclavement du département pour nous relier à nos départements voisins et permettre un meilleur accès plus facile. Je pense également, même en interne, c'est pas normal que le trajet Mayenne-Château-Gontier soit aussi long. Le fait de passer d'un bout à l'autre du département, on a des endroits aujourd'hui qui sont à plus d'une heure de Laval. Parce que, en fait, problème de manque de route. Donc ça, c'est un travail. C'est évidemment pas la question de la mairie. Mais c'est une question qui vous répond. Ensuite, au sujet vraiment purement municipal, eh bien déjà, ça va être l'attractivité. L'attractivité, ça va être celle du centre-ville. Le fait d'avoir un centre-ville qui est dynamique, dans lequel on va avoir, évidemment, énormément de commerçants. Donc ça, c'est un travail que vous avez compris, que l'on porte, évidemment. Le fait d'avoir un centre-ville qui est facilement navigable, c'est également un projet que l'on porte. Et donc, l'idée d'avoir ces transports en commun qui soient développés, qui le sont, mais qui doivent continuer à l'être. Le fait d'avoir ce développement des fameuses voies de berge dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui est mon programme pour la circulation, d'utiliser ces voies de berge qui aujourd'hui sont très peu utilisées, je pense à la rive gauche du pont d'Avenir jusqu'au pont Aristide-Briand, et qui sont globalement, il n'y a personne dessus presque, si vous y allez, vous y êtes très peu de monde. Et donc là, moi je pense qu'il faut vraiment développer, et ça permettra de désengorger le centre-ville, évidemment avec le projet de place de parking qui permet de nouveau d'avoir un meilleur accès de la périphérie jusqu'à la ville, en se garant en ville pour ensuite faire ses emplettes. Je pense qu'il faut vraiment un rapport entre la ville et la campagne. Énormément de gens, quand vous allez sur le marché le samedi matin, vous discutez, je pense que là on peut tous en témoigner, quand on tend des tracts, eh bien, une réponse qu'on entend très souvent c'est « Ah non mais je vote pas à Laval ». On a énormément de gens qui sont dans le centre-ville de Laval le week-end, sur le marché de Laval, qui ne sont pas lavallois, qui viennent de Bonchamp, de Saint-Berthevin, de Changé, mais même de plus loin. Et donc de l'agglo, mais pas que. Et c'est aussi des gens qu'il va falloir inclure pour dynamiser le centre-ville. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question du patrimoine. Et donc ça, c'est, on en aura l'occasion, je pense, de détailler nos différents projets à ce sujet-là. Mais évidemment, le Château Neuf, moi je porte un projet de vraiment mise en avant du patrimoine historique lavallois et mayennais en utilisant ce fameux Château Neuf pour servir de fenêtre sur l'histoire de Laval. Et donc on utilisera tout ça pour faire un voyage dans le temps à travers l'histoire lavalloise en ayant une partie qui sera sur de la réalité virtuelle et le reste qui sera des maquettes de l'évolution de la ville de Laval à travers les siècles, des endroits qui parleront d'artistes lavallois qui sont renommés nationalement, etc. etc. Et on utilisera évidemment aussi les lumières et les événements comme Noël et comme différents événements annuels pour mettre en avant ce patrimoine historique lavallois qui permettent de faire venir des gens. On voit bien que durant les lumières, on a plein de gens à Laval qui ne sont pas lavallois, qui parfois ne sont même pas mayennais. Et donc on en profitera.
Merci beaucoup Thomas Brissot de nous avoir présenté les propositions du Rassemblement National, enfin du Rassemblement pour Laval, c'est le nom de votre liste. Samia Soultani, avec vous pour Laval, vous avez des propositions aussi pour notre activité et le centre-ville de Laval.
Tout à fait, parce que le centre-ville d'une ville, c'est le cœur battant de la ville. Et effectivement, il faut parvenir à le rendre plus dynamique. Ce qu'on constate ces dernières années, c'est l'augmentation de la vacance des locaux commerciaux. C'est une réalité, puisqu'on a quasiment doublé, voire plus, la vacance. C'est une réalité aussi. Et il faut absolument qu'on arrive à créer des flux qui passeront par une offre touristique qui est très faible aujourd'hui, qui ne valorise pas le patrimoine à Laval. Nous avons un très beau Laval historique qu'il faut valoriser. C'est ce qu'on avait essayé de faire, notamment avec l'installation du marché des Lumières sur ce quartier-là, pour pouvoir attirer des artisans d'art, pour pouvoir les implanter par la suite. On était parvenu à en implanter quelques-uns rue des Orfèvres, et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la Grande Rue pour pouvoir en implanter d'autres. Et bien évidemment, le Château Neuf, qui est un projet central de notre programme municipal, puisque c'est un patrimoine qui a été rénové de l'extérieur, il y a tout à faire à l'intérieur. Et notre projet, c'est de faire converger les compétences et puis les forces de notre territoire qui sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On espère pouvoir renforcer aussi ces compétences avec l'intelligence artificielle et puis le patrimoine. L'idée de faire porter ce projet par la collectivité, mais pas seulement, c'est aussi faire de sorte à ce que ce projet soit un projet de mandat fédérateur qui mobilise aussi bien le patrimoine, les acteurs culturels, les mécènes également, parce que c'est un projet qui ne pourra pas être porté uniquement par la collectivité, et puis un projet qui attire de nouvelles personnes dans le centre-ville. Parce que ce qui manque aujourd'hui pour faire vivre le centre-ville, c'est le commerce. Et puis, il y a un sujet également par rapport à la baisse de la population à Laval. Donc, on continue à perdre des Lavallois qui vont ailleurs. Et il faut absolument qu'on incite les familles, notamment, à s'installer dans le centre-ville en rénovant le patrimoine. Aujourd'hui, on a notamment les bâtiments du CCAS Place de RC qui sont vides depuis tout le mandat. Il faut absolument accélérer ce projet-là pour avoir des logements d'un certain standing. Nous avons aussi des bâtiments qui se sont vidés, notamment l'ancien bâtiment du siège de Médon Habitat ou encore la chambre des métiers et de l'artisanat qu'il faut absolument valoriser pour avoir des logements d'un certain standing. Et puis pour finir, on met en place une prime pour les primo-accédants dans le centre-ville, une prime communale de 5 000 euros pour pouvoir attirer encore une fois ces familles qu'ils achètent des biens dans le centre-ville, des appartements. Encore faut-il avoir des appartements d'un certain standing pour être assez concurrentiel par rapport à l'offre qu'on a en périphérie.
Merci beaucoup Samia Soultani-Vigneron. C'est à votre tour, Martine Hamelin, pour Lutte Ouvrière, le Parti des Travailleurs, de nous exposer vos propositions pour l'attractivité dans le centre-ville de Laval.
Bien, pour avoir un centre-ville attractif, et là je ne parle pas seulement pour Laval, mais je parle pour l'ensemble des villes, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de venir s'y promener. Donc s'ils veulent s'y promener, il leur faut deux choses. Il leur faut du pouvoir d'achat, il leur faut du temps. pouvoir d'achat, parce que déambuler dans une ville sans même pouvoir vous amener des gamins, vous avez même pas de quoi leur payer une glace, excusez-moi du peu, mais ça le fait pas. Et aujourd'hui, si on le voit, mais dans plein de villes, et à Laval on le voit particulièrement, les gens des quartiers populaires viennent très très peu en centre-ville. Alors il y a effectivement tout le quartier de Saint-Nicolas qui est très très loin, ça paraît immensément loin pour tout un tas d'habitants. Donc il faut que les gens aient la possibilité d'y venir. Il y a la question des transports qui est posée, mais la question aussi de ce qu'ils ont, la question d'avoir du temps, la question d'avoir un peu d'argent à dépenser, parce que sinon ça fera pas tourner les commerces. Donc bon, je me prononcerai pas sur des projets précis, parce que dès la réponse à la première question, mais je pense qu'on ne réglera pas les problèmes d'attractivité des centres-villes sans régler la vie de la population dans son ensemble.
Merci beaucoup Martine Namelin. C'est à votre tour Florian Berco pour la liste Laval à venir.
Oui, on a un centre-ville de Laval qui est beau, qui est patrimonial, mais qui est pas simple parce qu'il est découpé en deux rives. Il y a la Mayenne qui le sépare, et puis entre le haut et le bas, entre la Laval historique et le bas. Et donc... je trouve que ce centre-ville y résiste mieux, là où beaucoup de maires et Laval y est confronté au grand plan de licenciement des grandes marques qu'on a connues, Sainte Marina, IKKS, Minelli, et je pourrais en citer beaucoup. Je vois qu'il résiste mieux et puis il retrouve une certaine vitalité depuis l'inauguration de la place du 11 novembre, mais c'est un projet qui était attendu et je crois qu'aucun Lavallois et Lavalloise ne regrette cette place du 11 novembre, qui est un nouvel attracteur, un nouveau poumon qui redistribue les différentes artères commerciales. J'y ai vu s'installer à la suite des travaux qui ont été douloureux et je remercie tous ceux qui ont bien voulu être tolérants. C'est jamais agréable des travaux, mais je vois revivre ce centre-ville avec la Michelin qui a refait sa façade, avec le déplacement de certaines enseignes sur cette place, même une halle santé avec Alliance Santé qui s'y est mis. On retrouve de nouveaux flux. Viennent de s'installer Normal, Avril, Le Petit Souk sur la rue de Gaulle, l'Orange Bleu qui est une salle de sport. C'est aussi offrir une expérience pas que commercial, mais on puisse faire de l'activité, ou encore prendre un café avec des endroits un peu à thème, comme l'Embellie en bas de la Grande Rue. Donc on voit des enseignes avec des grandes enseignes et des indépendants s'installer et faire revivre ce centre-ville, et je crois qu'il faut continuer à le soutenir. Nous, on a un plan en 3A qu'on développe depuis quelques années. Un, accompagné à travers la foncière de revitalisation, à travers le droit de préemption, à travers la taxe sur les commerces vacants et puis le fonds immobilier de proximité. On a accompagné plus de 40 commerçants qu'on subventionne à hauteur de 25% de leurs travaux pour embellir, pour refaire des travaux dans leur boutique. Deuxième A, attirer. C'est pour ça qu'on va au Salon de la Franchise, c'est pour ça qu'on est en contact avec des grandes enseignes. On veut attirer aussi en créant un nouveau stationnement en lieu et place de la Chambre des métiers et d'artisanat à côté du Cinéville. Et puis attirer par une offre de loisirs et de services. Ils remettent aussi pas que du commerce dans le centre-ville, mais demain qu'on puisse consommer d'autres choses. Et notamment dans le Château-Neuf, on veut expérimenter du loisir, du jeu, pourquoi pas de l'escalade. Et enfin, troisième A, c'est animer. Il faut que ce centre-ville y vive. Et ça passe par un programme d'animation renforcé, comme on le vit au moment des Lumières. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, la ville de Laval. On a plaisir à se retrouver. C'est énormément de visiteurs, tout comme le samedi matin, surtout quand il fait beau ces derniers temps. Et on veut continuer à aller plus loin avec, pourquoi pas, un marché des brocanteurs qui peut être mensuellement sur la place et de nouveaux événements à créer tous ensemble. Moi, j'ai confiance en ces acteurs et en la vitalité, en dynamisme associatif, culturel et sportif pour faire de ce centre-ville une véritable vitrine.
Thomas Brissot, pour le Rassemblement pour Laval, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je me permets de rebondir un petit peu, puisqu'on parlait du passage d'une rive à une autre. Et c'est vrai que ça, c'est à mon avis un sujet qui est un sujet important, puisque je vais prendre deux exemples. Premièrement, aujourd'hui, vous êtes sur la rue qui longe les remparts. Donc, vous savez, la rue de la Fnac, le long du monument aux morts. Vous voulez aller simplement sur l'avenue du Général de Gaulle, qui est juste à côté. À pied, c'est 20 secondes. Hein. Vraiment, j'exagère, mais 30 secondes à pied. Vous êtes obligé de faire quoi ? De passer par le feu de la place du 11 novembre, puis de prendre le pont Aristide-Briand, de passer sur l'autre rive, de revenir ensuite et de reprendre le pont. pour ensuite repasser sur la place du 11 novembre pour aller le long de la mairie sur l'avenue du Général de Gaulle. Ça, c'est le genre de choses qui semble un petit peu lunaire. Donc là, pour le coup, la voiture n'est pas vraiment très, très accueillie. Et un autre point, donc de nouveau, donc là, on traverse la rive sans raison. Et une autre raison, c'est que aujourd'hui, si vous voulez passer de la rive gauche à la rive droite, c'est très simple. Vous avez évidemment le pont de Prissé et le pont d'Avenir, mais vous avez trois ponts, puisque les deux ponts sont les deux ponts principaux sont en double voie. Et puis, vous aviez le pont Vieux qui, lui, passe de ce côté-là. Mais si, à l'inverse, vous voulez passer de la rive droite à la rive gauche, eh bien, vous n'avez qu'un seul pont. Et donc, ça, c'est un problème, puisque ça pose énormément de soucis, puisque du coup, ce pont-là, il passe par la place du 11 novembre, on est de nouveau coincé sur cette fameuse place. Moi, je propose une chose qui est très très simple dans mon programme, qui ne coûte rien, c'est juste on déplace un panneau de signalisation, c'est de changer le sens du pont Vieux, pour passer non plus de la rive droite à la rive gauche, mais dans l'autre sens. Ça permettrait de désengorger une partie du centre-ville, en permettant aux gens qui sont sur la rive gauche de passer rapidement de l'autre côté, d'un quai à l'autre, par ce pont qui aujourd'hui est très peu fréquenté, de nouveau dans cette dynamique de voies de berge qui, selon moi, sont sous-exploitées.
On peut avoir encore 2 minutes, si vous voulez, sur ce sujet, de la question de la circulation et du stationnement dans la ville de Laval. Samia Sultani-Vigneron, pour Avec vous pour Laval.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un problème national, mais encore une fois, il ne suffit pas pour justifier la désertification du centre-ville de Laval et les flux qui convergent plus vers des villes périphériques que dans le centre-ville de Laval. Donc il y a eu une communication très négative sur la circulation, sur la place de la voiture dans le centre-ville. Je ne dis pas qu'il faut faire du tout voiture, il faut un équilibre à trouver entre voiture, vélo, piéton, trottinette, et il faut que cet équilibre soit fait de manière très pragmatique et non idéologique. Aujourd'hui, on assiste effectivement à un flux de voitures qui convergent vers le même pont. On ne va pas construire un nouveau pont, bien évidemment, parce que je l'ai entendu par ailleurs, et c'est juste quelque chose d'irresponsable. Il faut déjà assurer une circulation pragmatique, concrète, qui répond aux besoins des vélos, aux besoins des voitures, aux besoins des piétons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le fait que toutes les voitures convergent vers la place du 11 novembre, alors qu'initialement c'était, l'objectif était quand même de libérer la circulation pour qu'il y ait des déports de circulation sur d'autres axes de circulation, notamment le pont de Prytz, avec un projet de doublement qu'on porte dans le cadre de cette élection municipale, qui est très important pour éviter que tout le monde converge vers le centre-ville et vers la place du 11 novembre. Et puis, il y a un sujet de stationnement. C'est un peu comme les arbres, hein, parce que c'est pas le projet Saint-Julien qui a détruit le plus d'arbres dans le centre-ville, c'est bien la place du 11 novembre, et ces arbres, la plantation d'arbres n'a jamais été compensée. C'est une réalité. Et puis, on a le stationnement et les parkings, le manque de parking dans le centre-ville. Il faut absolument qu'on donne aux Lavallois quelques poches de stationnement, notamment au niveau du viaduc, puisqu'on propose dès 2026 la création de 50 places de stationnement en épi tout au long de la rue du Vieux-Saint-Louis et la rénovation du parking du viaduc pour créer un étage végétalisé qui doublera le nombre de stationnements sur cette partie de la ville.
En termes de budget, peut-être qu'on peut aussi voir ces aménagements, combien c'est chiffré ?
J'enchaîne. Bah, déjà pour 2026, on a les 50 places de stationnement. C'est en épi sur la rue du Vieux-Saint-Louis. Donc c'est pas ça qui va coûter. Ce sont les agents de la ville et de la Laval Agglomération qui vont s'en charger. Après, pour le projet de stationnement, on lancera des études, notamment pour du stationnement souterrain au niveau du square de Boston. À titre d'exemple, à Vannes, nous avons un parking étanche, parce que certains vont dire bah non, c'est pas faisable. Et bien sûr que c'est faisable. Moi, j'ai habité à Lyon avant de venir à Laval il y a 20 ans. Il y a bien des parkings étanches à proximité du Rhône, donc on peut le faire à proximité de la Mayenne également. Ce sont des projets privés. À Vannes, par exemple, les 400 places de parking souterrain, c'est 10 millions d'euros portés par le privé, donc pas un centime déboursé par la collectivité. Ça sera notre credo, donc le privé et les projets privés pour le privé, et nous on s'occupe du quotidien des Lavallois.
Il faudra voir le prix du stationnement, effectivement, qui est très compétitif sur la ville, puisque moi, une des propositions qui est très pragmatique, il n'y a aucune idéologie dans tout ce qu'on fait. Une des premières décisions du conseil municipal en 2020 était de créer un stationnement sur une piste d'athlétisme pour faire du parking supplémentaire. Donc, je ne me sens pas concerné par les remarques précédentes. Il me semble qu'il faut ajuster la politique de stationnement. Je pense par exemple à la zone rouge. La zone rouge, au bout de 2 heures, vous tombez sur le forfait post-stationnement à 25 euros. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter 3 heures, 4 heures et échelonner en fait ce stationnement et retrouver des marges de manœuvre? Ça me semble être vraiment essentiel. Et redécouvrir notre parc de stationnement à Laval, ça me semble vraiment important. Et sur la circulation, ça a été dit, il faut qu'on rééquilibre le développement urbain de notre agglomération. On a développé ces 30 dernières années l'ouest de l'agglomération, alors qu'à l'est, il y a les logements. Et donc, on fait le mouvement pendulaire est-ouest. C'est pour ça que depuis quelques années, on développe les zones d'activité à l'est, autour de Louvernay, la Motte-Babin, une vingtaine d'hectares qui a été développée par de nouvelles entreprises qui sont installées. Et on va développer le nouveau parc d'activité Grand Ouest, là aussi, pour accueillir de nouvelles entreprises et essayer d'avoir moins de mouvements pendulaires. Et puis, bonne nouvelle, on va, dans les prochains mois, démarrer les travaux du troisième échangeur autoroutier, justement à l'est de l'agglomération, qui sera une des solutions à désengorger, et de manière rapide et pragmatique, le pont de Prit, puisqu'on pourra interdire notamment les poids lourds qui seraient en transit sur le pont de Prit et plutôt prendre la voie autoroutière. Ça, c'est des choses très simples. Et nous, on soutient Laval Agglomération dans le cadre de notre plan de mobilité simplifié. Le travail autour des points noirs de circulation, le rond-point Ménard, le pont de Prit, le pont d'Avenières, sur lequel on est en train de finir des études, et j'ai bon espoir qu'on enclenche avec notamment le conseil départemental des travaux, et je me réjouis qu'ils saisissent du sujet après l'avoir annoncé, certes, en 2014. Et là, il y a quelques semaines, je me réjouis qu'on puisse se mettre à la tâche enfin et ensemble.
Une dernière chose peut-être sur l'attractivité pour les commerçants, notamment en centre-ville. Il y a cette lutte également peut-être contre les grandes surfaces périurbaines. Comment on lutte contre ces super surfaces où on a plein de choses, où on retrouve au final beaucoup de commerces qu'on aurait pu qu'il y avait aussi dans le centre-ville?
Florian Berco. Depuis 2008, on a créé 38 000 m² commerciaux en plus, c'est 20% d'offres commerciales supplémentaires sur notre agglomération. On s'en est rendu compte dès le début du mandat, on a fait ce diagnostic-là et on s'est mis autour de la table avec tous les maires de l'agglomération et notamment le maire de Saint-Birtevin et le maire de Bonchamp pour se dire quelles sont les zones commerciales qu'on va conserver. Et la zone de Saint-Berthevin a tout son sens à être conservée en l'état, sans forcément l'étaler de manière supplémentaire, et d'autres peut-être à reconvertir. C'est pour ça que le parc de l'habitat, en conscience, on s'est dit qu'on allait le tourner autour du loisir, et pas créer de la concurrence, mais de la complémentarité entre zones commerciales, et évidemment, complémentarité avec les centres-villes et centres-bourgs qu'on soutient encore plus fortement avec le fonds immobilier de proximité. Là, on finance les travaux des commerces qu'on ne fait pas dans les zones commerciales. Donc, le plan, il existe et a été voté en 2022 et je trouve qu'on est dans la juste mesure et vous ne m'avez jamais entendu dire et rouvrir une guerre entre Laval et Saint-Berthevin qui est complètement stérile. On ne peut pas être pour la libre concurrence. Par contre, on peut aider plus ceux qu'on veut voir venir, notamment dans les centres-villes où il y a la désertification commerciale.
C'était pas un problème contre le centre-ville, c'est...
Il y a de la complémentarité, et pour ça qu'il faut bien travailler ensemble, pour se dire qu'il y a des enseignes qui restent et qui doivent rester en centre-ville, et d'autres qui ne doivent pas aller en périphérie. Enfin, qu'une enseigne, par exemple, comme Bonobo, qu'on retrouve à Saint-Berthevin, a fait le choix d'y aller, peut-être qu'on aurait pu se questionner, mais c'est en conscience, dans le dialogue avec les élus qu'on y arrive, et je pense que le dialogue, il est constructif. Et bien au contraire, et je sais que les maires ont bien conscience des difficultés. On a même mis en place à l'agglomération un fonds de concours, une aide pour les commerces qui sont propriétés des villes, des municipalités, parce qu'à l'agglomération, il y a des petites communes qui sont propriétaires de cellules commerciales. On va les aider directement aussi à rénover leur boutique, parce que là aussi, il y a un enjeu. On parle beaucoup de centre-ville de Laval, mais on pourrait parler des centres-bourgs qui ont perdu pharmacie, boulangerie, et l'agglomération a une responsabilité sur laquelle nous agissons.
Justement, c'est important de rappeler un élément de contexte. La question de la vacance commerciale et des difficultés des commerces de centre-ville ne concerne pas effectivement uniquement la ville de Laval. Plusieurs études nationales montrent que la fréquentation des magasins a reculé ces dernières années et que la consommation des ménages reste quand même principalement sous pression avec l'inflation. En moyenne, près d'un local commercial sur 10 est aujourd'hui vacant dans les centres-villes en France. Ça montre que le phénomène dépasse effectivement largement l'échelle d'une seule ville et pose aussi la question de la marge de manœuvre réelle des municipalités face à ces évolutions. C'est juste une précision pour les auditeurs qui nous écoutent.
Et dans l'actualité, Hémisphère Sud, Saint-Berthevin vient d'annoncer sa fermeture. Enfin, un peu pour en égrener, on voit que ça touche tout le monde et c'est un problème sur lequel on agit.
Thomas Brissot, pour rebondir sur ce sujet.
Oui, en effet, ça, c'est un sujet qui est évidemment éminemment local, mais aussi national. Ça fait depuis globalement des décennies que, globalement, sur le modèle américain, en vérité, on a eu cette idée d'excentrer nos commerces historiques de centre-ville. Historiquement, en Europe, on allait dans les centres-villes, à pied, faire ses emplettes dans nos rues commerçantes. Et à partir des années 50, 60, 70, on a eu ce développement progressif des gros centres en périurbain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le futur qu'on souhaitait. À l'échelle nationale, de nouveau, c'est pas que Levallois. Et que, évidemment, que les zones qui ont déjà commencé à être mises en place vont rester. Mais il est important d'arrêter cette espèce d'exode rural, presque, mais inversé, où les commerces de centre-ville s'exilent dans le périurbain et donc se vident. Moi, je pense pour ça déjà qu'il faut commencer par revoir le plan local d'urbanisme en ne permettant plus l'extension et la création de nouveaux centres, de gros centres commerciaux dans le périurbain. Le but, c'est évidemment toujours pas, comme le disait Monsieur Berco, de se lancer dans une guerre avec Saint-Berthevin, dont on parlait tout à l'heure, qui est l'un des endroits où il y a ce gros pôle commercial. Mais je pense pour autant quand même qu'il faut arrêter cette hémorragie, puisque de fait, les nouvelles entreprises qui s'installent là-bas sont pour certaines qui ont fermé ou qui auraient pu s'installer en centre-ville. L'important, ça va être plutôt d'être dans l'incitation, de rendre le centre-ville plus compétitif. Parce qu'encore une fois, pourquoi est-ce que les gens vont dans le périurbain ? De nouveau, vous allez croire que je radote, parce que l'accès au centre-ville est difficile, parce qu'on a cette place du 11 novembre qui est engorgée, parce qu'on a des difficultés à se garer, etc. C'est un problème qui est global, et pour moi, en redynamisant le centre-ville, en redonnant accès entre le centre-ville et la périphérie, et en permettant d'inclure les ruraux dans ce centre urbain, eh bien, on va rendre plus compétitif, et je pense que tout le monde est d'accord que c'est toujours bien plus agréable d'aller se garer en ville et ensuite de se balader dans des rues marchandes et d'aller faire ses emplettes de magasin en magasin que de prendre sa voiture pour aller se mettre sur un gros parking devant un centre commercial et ensuite aller dans une galerie marchande. Donc là-dessus, je pense que ça va être encore une fois des incitations et de dynamiser le centre-ville qui sera la solution à ce problème.
Martine Hamelin, je reviens juste après avec vous, Samia, vous aviez un petit peu d'avance, Samia Sultani. Martine Hamelin, quel regard vous portez, vous, sur ce sujet-là ?
Bah, sur ce sujet-là, moi, je pense que, effectivement, si on n'est pas capable de se rendre compte que les commerces sont moins attractifs parce que les gens n'ont pas d'argent pour y aller, je pense qu'on tourne en rond. Hein. Donc, pour se promener, il faut aussi du temps. Donc, quand on a fait une semaine avec des heures supplémentaires ou un 3-8, des fois, le week-end, on reste chez soi. Hein. Et souvent même. Et redonnons du salaire, de quoi vivre aux gens. Et puis, après, on se posera la question de ce qu'il faut comme entreprise, comme commerce. Voilà, je crois que c'est tout et j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, quoi.
Samia Sultani, pour clore le sujet.
Oui, assez rapidement. Il n'y a pas de fatalité, en fait. Quand on trouve des murs en face de nous, des freins au développement d'un centre-ville, au développement du commerce, il faut trouver des solutions innovantes et il faut absolument être force de proposition. Effectivement, il ne faut pas opposer la périphérie parce qu'il y aura toujours des clients. En fait, c'est le client qui décide. On ne contraint pas un commerce à s'installer dans le centre-ville plutôt que sur la périphérie. Il y a des enseignes qui ont leur clientèle en périphérie, mais ce qu'on veut créer, ce sont des expériences. Parce que dans un centre-ville, on flâne. Dans une zone d'activité, on ne flâne pas. On se gare, on va faire les boutiques et on repart. C'est ce qu'on veut créer avec ce projet ambitieux, ce projet touristique et patrimonial ambitieux. Il faut qu'on crée ces expériences, il faut qu'on ramène des familles dans le centre-ville. Tout est lié, en fait. Et puis, il n'y a pas de fatalisme, parce que quand on regarde d'autres communes de la Mayenne, ces mêmes études ont précisé que Mayenne et Château-Gontier font partie des trois premiers du podium qui voient leurs vacances commerciales baisser avec du commerce qui s'installe en centre-ville. Et à la ville-centre, au niveau de la ville-centre, c'est l'inverse. Donc il faut se poser quand même des questions. Donc des villes qui ne sont pas des villes locomotives, des villes-centres arrivent à dynamiser leur centre-ville et ce n'est pas le cas de la ville de Donc il faut se poser des questions sur des choix qui ont été faits qui ont freiné le développement du commerce dans le centre-ville de Laval.
Nous arrivons déjà dans la dernière partie de ce débat. Et pour respecter le temps de parole de chacun ainsi que le timing de l'émission, on va devoir malheureusement renoncer à la thématique que nous avions prévue sur la vie associative et la qualité de vie, qui reste une thématique importante et essentielle pour les Lavallois. Malgré tout, on invite les auditeurs qui nous écoutent à se pencher sur vos différents programmes qui s'intéressent à cette question. Nous sommes actuellement, il nous reste 7 minutes de débat. En ce qui concerne le temps de parole, Thomas Brissot, vous êtes à 19 minutes et 24 secondes. Samia Sultani, 20 minutes. Martine Hamelin, 10 minutes et 24 secondes. Et Florian Berco, 18 minutes et 39 secondes. Donc Martine Hamelin, on vous laissera un temps de parole conséquent si vous le souhaitez, en tout cas pour terminer, pour respecter cette équité. On voulait terminer ce débat avec quelques questions. Vous, maire de Laval, quelle est la première mesure que vous prendrez dans les 6 premiers mois ? Samia Sultani, peut-être pour commencer ?
Le stationnement, bien évidemment, c'est pour cette raison qu'on a essayé de trouver des solutions rapides. Je l'ai dit tout à l'heure, les 150 places de stationnement en épi sur la rue du Vieux-Saint-Louis, c'est quelque chose qu'on fera dès 2025. C'est aussi des assises de la vie associative à la ville de Laval pour pouvoir porter un projet ambitieux en partenariat, en lançant un appel à projet auprès des associations pour lutter contre l'isolement, contre le décrochage scolaire. Donc ce sera un programme et un projet partagé avec la collectivité et puis l'ensemble des associations qui se mobiliseront à nos côtés avec un appel à projet sur 3 années pour donner de la visibilité aux associations qui nous accompagneront dans ce projet ambitieux. Et puis il y aura également donc les études qu'on va lancer, notamment en termes de stationnement et de patrimoine qu'on va rénover tout au long de la mandature.
Merci Samia Sultani. Martine Hamelin, on vous tend le micro pour la lutte ouvrière.
Bah écoutez, moi je pense qu'aucune municipalité, aussi bien intentionnée soit-elle, peut aller contre l'évolution de la société. Aujourd'hui, la société elle est en crise et on la fait payer au monde ouvrier. C'est le monde du travail qui paye cette crise. La fortune des capitalistes, elle explose. Les travailleurs, nous, on est confrontés à une exploitation de plus en plus dure, des salaires indignes, des licenciements, les prix qui flambent. Voilà. Et puis, en plus... En ce moment, plus que jamais, notre avenir est suspendu aux guerres qui éclatent aux quatre coins du monde. Donc, de plus en plus des tensions qui s'intensifient, des choses comme ça. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et on sait qu'il y en a qui ont envie de faire la guerre. Hein. Les marchands d'armes, c'est leur seule envie en ce moment. Et puis l'État les accompagne bien en faisant des collèges et des lycées, les bases de recrutement pour l'armée. Donc nous, on pense que là-dedans, les seuls qui peuvent modifier l'évolution de la société, c'est les travailleurs. Et ils en ont la force, ils retrouvent la conscience de leur force.
Concrètement, peut-être une première mesure pour les 6 premiers mois que vous proposeriez ?
Là, une grosse mobilisation des travailleurs pour gagner de quoi vivre.
Merci Martine Hamelin, Florian Berco pour la liste Laval à venir.
Oui, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, évidemment, la santé, mais en particulier les soins dentaires. On sait qu'on a de moins en moins de dentistes et il y a un potentiel de dentistes retraités qui seraient prêts à nous donner du temps avec la capacité à accueillir de dentistes internes. Et donc, nous, on veut monter un centre dentaire en lien avec le centre hospitalier. Ça nous semble prioritaire pour des soins dentaires d'urgence. Ça a été fait dans d'autres villes, par exemple Château-Gontier. Donc, c'est possible. La collectivité, la mairie sera prête à financer les sièges dentaires, sera prête éventuellement à participer au secrétariat médical et permettre un soin, je rappelle, d'urgence, ça devient une nécessité d'agir à défaut que le gouvernement et l'État agissent sur le sujet pour les Lavallois et Lavalloises.
Merci Florian Berco. Thomas Brissot pour le Rassemblement pour Laval, on vous écoute.
Eh bien moi également, ce sera sur la question des places de parking, ça a été largement évoqué, donc je ne rentrerai pas dans le débat, dans la question précisément, mais globalement, régler les places de parking en priorité et la circulation, et évidemment le triplement de la police municipale. Voilà, ce sera prioritaire puisqu'on ne peut plus aujourd'hui avoir une police municipale qui est de l'ordre de 10 policiers municipaux, alors que c'est le nombre de policiers municipaux qu'on retrouverait dans une ville de 15 ou grand maximum 20 000 habitants, alors qu'on en a 50 000. Donc pour moi, ça, c'est prioritaire absolument. Et puis un dernier petit point que j'ai déjà évoqué, mais qui est presque de l'ordre d'anecdote, mais ça se fait extrêmement rapidement, c'est le changement de sens du pont vieux, puisque ça coûte rien, ça se fait en 2 secondes. Et à mon avis, ça permettra déjà, à petite échelle, d'avoir un impact positif sur l'interactivité entre les deux rives.
On parle du vieux pont.
Oui.
Pour terminer cet échange, ce débat, dans un souci de pouvoir permettre d'équilibrer le temps de parole accordé, je rappelle donc à l'auditeur, Thomas Brissot, vous êtes à 20 minutes, Samia Sultani, 20 minutes, Martine Hamelin, 11 minutes, et Florian Berco, 19 minutes. Martine Hamelin, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, peut-être pour terminer ?
On dira aux travailleurs qui relèvent la tête de voter Lutte ouvrière, le camp des travailleurs.
Merci beaucoup. Ce débat en direct touche à sa fin, même si nous aurions sans doute encore beaucoup de sujets à aborder et d'idées à développer. Merci à vous, candidates et candidats, d'avoir accepté de participer à cet échange et d'avoir confronté vos visions pour l'avenir de Laval. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Si vous avez manqué un moment de ce débat ou si vous souhaitez le réécouter pour affiner votre choix ou tout simplement le partager autour de vous, il sera disponible très prochainement sur les sites internet de nos trois radios et rediffusé donc sur nos antennes. Je vais peut-être tendre le micro à ma co-animatrice Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne pour indiquer où est-ce qu'on pourra retrouver le podcast.
Alors on pourra les retrouver chacun sur nos sites internet, hein, comme tu l'as dit Margot, et puis ça sera rediffusé aussi à un moment dans le week-end. Voilà, nos auditeurs seront attentifs à ça. Et pour revenir donc sur ce scrutin pour lequel vous avez accepté de débattre aujourd'hui, donc on rappelle le premier tour, hein, c'est le dimanche 15 mars, hein, le 22 mars ça sera pour le second tour, hein, et si vous savez déjà que vous ne pouvez pas vous déplacer aux urnes ce jour-là, vous pouvez, il est encore temps de faire des procurations. La démarche est réalisable jusqu'à un jour avant le scrutin, mais il est plus prudent de prendre un petit peu de marge. Et pour certains, ça peut même se faire complètement en ligne. Thomas Brissot, vous voulez rajouter une chose ?
Un petit mot pour simplement les électeurs du Rassemblement National qui souhaiteraient des procurations, pour dire qu'on a une plateforme en ligne à ce sujet-là et qu'ils peuvent aller directement sur le site internet du Rassemblement National pour pouvoir faire leurs procurations pour le RN.
Et en tout cas, merci à vous.
Des plateformes locales, lavalavenir.fr.
Bon, et merci en tout cas à vous tous d'avoir été...
la plateforme nationale de lutte ouvrière.
Et puis nous, une permanence qui est ouverte à tout le monde pour venir donner et apporter leurs procurations.
En tout cas, un grand merci Martine Hamelin pour Lutte ouvrière, Florian Berco pour Laval Avenir, Thomas Brissot pour le Rassemblement pour Laval et Samia Sultani Vigneron pour Avec vous pour Laval. Et puis une petite pensée aussi au candidat de LFI, Kamel Ogbi, qui pour des raisons professionnelles n'a pas pu venir, et son remplaçant Florian Carlet, qui était malade, qui est malade aujourd'hui, qui est souffrant. Donc en tout cas, merci à eux parce qu'ils avaient accepté aussi de débattre avec vous. Merci à tous pour le respect dont vous avez fait preuve et puis d'avoir pu éclairer ainsi nos auditeurs et vos électeurs. Et puis merci beaucoup aussi à Margot Doucet, donc, qui a co-animé ce débat, Margot Doucet de l'autre radio, et à Simon Le Baron pour Tendance Ouest, de s'être associé à ce débat.
Merci à Isabelle Rupin, donc de Radio Fidélité Mayenne, de nous avoir accueillis dans les studios de la rue d'Avenières à Laval.
C'était un plaisir. Merci à tous.